Alors nous faisons notre rentrée en terre promise, abaissant notre regard des hauteurs de l'Hermont, de la Mana, du Sanir. Nous faisons notre rentrée. On voit dans les chancrures là-bas en contrebas de la forteresse de Nemrod, qui est l'acropole de la ville de César et de Philippe, on est encore en terre païenne. Tenez, j'ai oublié de dire tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'église là où Jésus avait, dans la région où Jésus avait fondé l'église. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En bas de la route, on rencontre une petite église abandonnée, Melkite, je crois, grec Melkite catholique, mais c'est tout ce qu'il y a. Alors, la forteresse que nous voyons là, c'est l'acropole de Banias, enfin César et de Philippe, et puis en contrebas, on aperçoit l'extrémité de la terre promise, l'autel de Dan. Et pour nous préparer à rentrer en terre promise, il y a des textes qui passent en vue des différentes tribus. Un des premiers à connaître, c'est la naissance des patriarches, dans la Genèse, au chapitre 29. Et je vous lis ça parce que dans la lecture de ce récit apparaît une des caractéristiques principales du Dieu de la Bible. C'est qu'il est le tout autre et qu'il est là, dans la banalité de notre existence la plus quotidienne. Il est immanent et transcendant, comme disent les théologiens. C'est tout le paradoxe de l'Immanuel qu'on va trouver dans l'Évangile. Jésus, aussi véritablement homme que véritablement Dieu, aussi véritablement Dieu que véritablement homme, c'est la clé de voûte de toute la dogmatique chrétienne que les grands conciles ont mis au point. Nicée, Chalcédoine, Constantinople, et puis Éphèse. Et ça se trouve dans la banalité des récits bibliques, ce paradoxe fondamental. Nous sommes en Mésopotamie avec Jacob qui a épousé Rachel et Léa, et puis qui a affaire aussi aux deux servantes. Et alors Dieu prend le parti de celle qu'il a moins aimée, Léa. Il la rend féconde tandis que Rachel demeurait stérile. Léa conçut en enfantant un fils qu'elle appela Reuben, car dit-elle, Dieu a vu ma détresse. Il a vu la détresse de sa servante. Maintenant mon mari va m'aimer. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi donné celui-ci. Et elle appela Shma. Dieu a entendu. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. Elle appela Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, cette fois je vais rendre grâce, rendre gloire à Dieu. Elle appela Judas. Yehuda, hein, Todaraba, l'Eurodote, dire merci. Elle dit merci. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfants à Jacob, devint jalouse. Vous voyez, la providence divine là, vient s'immiscer dans les querelles de jalousie féminine, là, comme il y en a qui sont décrites ici. De sa sœur, elle dit à Jacob, « Fais-moi avoir des enfants ou je meurs. » Jacob s'emporta contre Rachel, « Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Elle reprit, « Voici ma servante Bilha, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. » Par elle, j'aurai moi aussi des enfants. Et lui donna donc pour femme sa servante Bilha, et Jacob suivit à celle-ci. Bilha conçut, enfanta à Jacob un fils, et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, et même il m'a exaucé, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela Dan. Et Dan, ça veut dire juger, la doune juger. Alors Dan, la première des tribus qu'on va traverser, voilà l'origine du nom. Et puis la deuxième, c'est la tribu de Naphtali. On va faire un petit tour en Haute-Galilée, là on aperçoit les montagnes de Naphtali là-bas, cette chaîne qui court nord-sud et qui barre l'horizon, Naphtali. Rachel conçut encore et elle enfanta un enfant à Jacob, un second fils, et Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur, les luttes de Dieu, et je l'ai emporté. Et elle appela Naphtali. Vous voyez cette religion d'affrontement, comme Jacob, j'étais fort contre Dieu et contre les hommes, je l'ai emporté. Et ici Rachel attribue à cette lutte-là, elle ne se résigne pas, il ne faut pas confondre la résignation et la patience. Et elle appela Naphtali. Alors vous le direz, c'est très très pittoresque la suite de la naissance des autres patriarches. Je ne fais qu'exciter votre curiosité pour que vous allez voir la suite. J'ai déjà mentionné, je crois, tout à l'heure, les Danites ont reçu en partage la région qui se trouve en contrebas de la montagne de Juda, à l'ouest de Jérusalem. Kiryat Yarim, par exemple, est à la frontière entre Juda, Benjamin et Dan. Mais alors Dan, du côté de Soria et d'Eshtaol, qu'on mentionne dans l'histoire de Samson, n'a pas réussi à couvrir son territoire à cause des Philistins qui avaient débarqué entre-temps. Et vous lirez l'histoire de Samson, c'est bien plus intéressant encore qu'Astérisque. Et c'est la lutte, pas la résistance acharnée des Danites contre l'occupant Philistin. Mais alors deux guerres lasses, pas les Danites vont décider d'émigrer et ils envoient des éclaireurs pour trouver un autre territoire. Et ils arrivent ici à Dagne, et les éclaireurs disent c'est une terre où rien ne manque de ce que l'homme peut désirer sur la terre, et ils s'installent là. Et alors entre les deux, vous avez au chapitre 17 du livre des Juges un récit que vous ne liriez pas si vous n'aviez pas fait la BST. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux ici, c'est qu'en France, on cherche des textes pour appuyer des sermons qu'on a envie de faire ou des conférences. Ici, on lit simplement ce que le terrain nous propose, et par le fait même, on voit que ces textes, ben c'est dommage qu'on ne les lise pas plus couramment. Écoutez, c'est très très riche de densité psychologique ici. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm qui s'appelait Mikayahou. Il y en a peut-être qui s'appelle Michel parmi vous, non? C'est ça que ça veut dire, Mikayahou. Qui est comme Dieu? Ben, c'est un nom qui suppose que celui qu'il porte a une haute idée de la transcendance de Dieu. Il dit à sa maman les 1100 shekels d'argent qu'on t'avait pris, au sujet duquel tu avais prononcé une malédiction, et même tu avais dit des choses, point, tellement grossières que j'ose pas les répéter. Mais cet argent, le voici, c'est moi qui l'avais pris. Sa maman dit que mon fils soit béni de Dieu, il est indulgent. Il rendit les 1100 shekels à sa mère qui dit j'avais voué cet argent à Dieu, de ma propre main, pour mon fils, pour faire. Alors ici, la litanie va revenir tout au long du récit. Enfin, c'est toujours un moyen de faire rire. C'est comme dans les films américains qu'on voit à la télévision. Enfin, le rire est compris. On rigole toutes les 15 secondes environ, vous voyez. Alors il y a des récits bibliques comme ça. Vous rappelez, on lira l'histoire de Dagon, l'arche qui arrive chez les Philistins à Dagon. Enfin, le mot Dagon est répété et puis tout le monde rigole de plus en plus fort. Alors la litanie que je vais vous montrer ici, pour faire une image taillée, une idole de métal fondu. Il y a deux dans l'arsenal, dans le magasin aux idoles. Vous avez les images taillées, mais alors on augmente la production et puis on fait des moules, on coule du métal et puis la production en est accélérée. Il rendit l'argent à sa maman. Alors sa mère prit 200 shekels. Bon, ça suffira peut-être. Hein. Et le remit au fondeur. On sent ce beau fou, la piété, c'est bien. Mais enfin, quand même, on pourrait peut-être faire des économies dans ce sujet-là, dans ce domaine-là. Celui-ci en fit une image taillée et une idole de métal fondu, qui fut placé dans la maison de Mikayahou. Vous vous rendez compte de l'ironie du récit, là? Voilà monsieur Mikayahou qui est censé avoir une haute idée de la transcendance de Dieu, et puis qui met chez lui, qui installe un bon Dieu qu'il a fabriqué. Cet homme, Mika, avait une maison de Dieu. Il fit un éphod, des théraphimes, ça c'est le matériel de sacristie de l'époque, et il donna l'investiture à l'un de ses fils qui devint son prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. Ça, c'est pas très régulier, pas de prendre n'importe qui pour en faire des prêtres, avec la tribu de Lévi, normalement, qui a ce privilège. Alors, sur les entrefaites, voilà qu'un jeune homme de Bethléem en Juda, du clan de Juda, qui était lévite, justement, et résidait là comme étranger. Cet homme quitta la ville de Bethléem en Juda pour aller s'établir là où il pourrait. C'est une espèce de girovague, on en voit pas mal. Oh, quand on est jeune, c'est bien, mais quand c'est un certain âge, ça peut être un peu inquiétant. On dit un jeune homme ici. Au cours de son voyage, il arriva dans la montagne d'Éphraïm à la maison de Mika. Mika, c'est le diminutif de Mikayahou. Mika lui demanda, d'où est-ce que tu sors? Je suis lévite, de Bethléem, en Juda. Je voyage afin de m'établir là où je pourrais. Fixe-toi chez moi, lui dit Mika. Vous voyez, il avait tout sauf le lévite. Sois pour moi un père et un prêtre, je te donnerai 10 shekels d'argent par an, l'habillement et la nourriture. C'est ce qu'on appelle en termes techniques une sinécure. Le lévite consentit à se fixer chez cet homme, et le jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils. Le jeune homme devint son prêtre et demeura dans la maison de Mika. Et maintenant, dit Mika, je sais que Dieu me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Qu'est-ce que le bon Dieu pourra encore me reprocher? Enfin, j'ai vraiment fait tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle le ritualisme rassurant. Alors c'est là-dessus que les Danites se mettent en route pour chercher un autre territoire. La tribu de Dan cherchait un territoire pour y habiter, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu de territoire parmi les tribus d'Israël. Alors les Danites envoyèrent de leur clan 5 hommes vaillants, de Soria et d'Eshtaol, pour reconnaître le pays et l'explorer. Ils leur dirent « Allez explorer le pays ». Les 5 hommes arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite. On se demande comment ils l'ont reconnu alors qu'on ne dit pas qu'ils l'ont connu. Et ça, il y a des gens, vous savez, à Jérusalem, tout le monde les connaît. Enfin, ce sont des espèces de picassiettes qui font le tour de tous les couvents. Et alors, ils sont connus de tout le monde, ils le reconnaissent. Et s'approchant de là, ils lui disent, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as ici? Après, il dit, ben, Mika, hein, fait pour moi telle ou telle chose. Il m'a pris à gage et je lui sers de prêtre. Consulte donc Dieu, lui répond le chrétien, afin que nous sachions si le chemin par lequel nous allons nous mettra à la réussite. Ben, ça sert à quelque chose, un prêtre. Alors, une petite bénédiction. Allez en paix, leur répondit le prêtre, votre chemin est sous le regard de Dieu. Les cinq hommes partirent donc et arrivèrent à Laïch. Laïch, c'était le nom primitif de Dan, qu'on voit là-bas. Ils virent que les gens qui l'habitaient vivaient en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants, qu'il n'y avait ni insuffisance ni restriction d'aucune sorte dans le pays, qu'ils étaient éloignés des Sidoniens, là-bas sur la Méditerranée, et sans relation avec les Araméens, là-bas derrière nous, du côté de Damas. Vous voyez, la route Damas-Sidon, elle prend en tangente à la base de cette grosse masse montagneuse de l'Hermon, qui est à l'extrémité sud de l'Anti-Liban, puis elle continue là-bas du côté de la côte méditerranéenne. Alors ils habitent là, à mi-distance entre Sidon et Damas, et puis voilà. Un pays sans insuffisance ni restriction d'aucune sorte. Ils s'en revinrent vers leurs frères à Soréa et Eshtaol, et ceux-ci demandaient, alors qu'est-ce que vous nous rapportez? Ils dirent, debout, montons, montrez, nous avons vu le pays, il est excellent, pourquoi demeurez-vous sans rien faire? N'hésitez pas à partir pour aller prendre possession du pays. En arrivant, vous trouverez un peuple confiant, le pays est étendu, et Dieu l'a mis entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de ce qu'on peut avoir sur la terre, pas seulement une terre où coule le miel, une terre où rien ne manque de ce que l'homme peut désirer sur la terre. Ils partirent donc de là, du clan des Danites, de Soria et d'Eshtaol, 600 hommes équipés pour la guerre. Ils montèrent camper à Kiriath Yarim en Juda. Ils s'engagèrent dans la montagne d'Éphraïm et ils parvinrent à la maison de Mika. Or, les cinq hommes qui étaient allés reconnaître le pays prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a ici, dans ces maisons, un éphod, des téraphim, une image taillée et une idole de métal fondu ?» Et le culte, on n'imaginait pas une expédition, une industrie, un commerce sans tout ce matériel de culte. Faisant un détour par là, ils allèrent à la maison du jeune Lévite, à la maison de Mika, et ils le saluèrent. On est poli. Pendant que les 600 hommes des Danites équipés pour la guerre se tenaient sur le seuil de la porte. On est poli, mais attention. Les cinq hommes qui étaient allés reconnaître le pays vinrent, et étant entrés, ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphimes et l'idole de métal fondu, tandis que le prêtre se tenait sur le seuil de la porte avec les 600 hommes équipés pour la guerre. Ceux-là donc, étant entrés dans la maison, de Mika, prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphimes et l'idole de métal fondu. Le prêtre leur dit, « Qu'est-ce que vous faites là ? Tais-toi, lui répondirent-ils, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu seras pour nous un père et un prêtre. Faut-il mieux pour toi être le prêtre de la maison d'un seul homme que d'être le prêtre d'une tribu et d'un clan en Israël ? » Alors, il ne va pas résister à la promotion ecclésiastique. Le prêtre en fut réjoui. Il prit l'éphod, les téraphimes, l'image taillée et s'en alla au milieu de la troupe. Reprenant alors leur direction, ils partirent, ayant placé en tête les femmes et les enfants. Enfin, c'est pas que le terrain est miné, c'est au contraire que le péril peut venir de l'arrière. Les troupeaux et les bagages. Ils étaient déjà loin de la demeure de Mika, quand les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika donnèrent l'alarme et se mirent à la poursuite des Danites. Comme ils crièrent après les Danites, ceux-ci se retournant dirent à Mika, « Qu'est-ce que tu as crié comme ça ?»« Vous m'avez pris, mon Dieu, que je m'étais fabriqué, leur répondit-il, ainsi que le prêtre, vous partez, et que me reste-t-il ? Comment pouvez-vous me dire, qu'est-ce que tu as ?» Vous sentez, vous m'avez pris le bon Dieu que je m'étais fabriqué. Et ça, on en est tous comme ça. Hein. On s'est fait tous des bons dieux moteurs auxiliaires. Bon, on s'en sert dans la mesure où c'est utile dans l'existence. Mais le Dieu créateur du monde, qui a fait le ciel et la terre, qui est l'auteur de l'histoire sainte, avec qui nous sommes appelés à entrer en dialogue, bon, nous sommes tous appelés à échanger les bons dieux qu'on s'est fabriqués contre le Dieu vivant, à nous détourner des idoles et à nous tourner vers le Dieu vivant. Et bon, je crois que la Bible, c'est pire que les psychologues, les psychanalystes actuellement qui s'amusent à détruire tous les faux bons dieux. Je pense qu'ils vont quelquefois trop vite, les planchers deviennent des gouffres. Quand on voit les motifs très intéressés de nos actes en apparence les plus nobles, et les gens, ils donnent rien pour remplacer. Bah, la Bible, petit à petit, au fur et à mesure que l'image du Dieu vivant se révèle, détruit les idoles, vous comprenez? Mais il ne faut pas détruire trop vite, il ne faut pas que les planchers deviennent des gouffres. Alors ici, c'est le cas de ce pauvre monsieur Mika. Vous m'avez pris de mon Dieu que je m'étais fabriqué, ainsi que le prêtre. Vous partez, qu'est-ce qui me reste? Comment pouvez-vous me dire qu'est-ce que tu as? Les Danites lui répliquèrent, ne nous fais plus entendre ta voix, sinon des hommes exaspérés pourraient bien tomber sur toi. Tu risques de causer ta perte et celle de ta maison. Les Danites poursuivirent leur chemin, et Mika, voyant qu'ils étaient les plus forts, s'en retournant et revint chez lui. Alors ils arrivent comme ça à Laïch, et puis ils s'emparent de Laïch, auquel ils donnent le nom de leur ancêtre, Dan. Et derrière ce récit, ben, manifestement, il y a une critique sarcastique, pas du sanctuaire schismatique que va faire le roi Jéroboam. Vous vous rappelez, on a raconté l'histoire à propos du veau d'or, et puis on a raconté à propos de Salomon. Jéroboam crée deux sanctuaires schismatiques aux deux extrémités de son nouveau royaume, ben, à Dan et puis à Bethel. On a déjà rencontré Amos à Bethel en conflit avec Amasias. Et ici, vous avez un autre récit ironique et sarcastique contre le culte avatardi de Dan, pas le veau de Dan. Bon, voyez, ce récit est très riche de densité psychologique, hein, et c'est dommage qu'on s'en prive. Et je suis sûr que si vous n'étiez pas venu ici en Israël, comme ça, faire la Bible sur le terrain, ben, peut-être que vous ne l'auriez jamais lu. Enfin, j'ai fait l'expérience, souvent, il y a des prêtres, il y a des gens censés avoir lu toute la Bible, ils ne connaissent pas ce récit-là. Et d'ailleurs, c'est curieux, même quelquefois, il y a des exégètes, des professeurs, je leur demande où ça se trouve, ils ne savent pas.